de même que la presse au complet, nous dirait que nous devons collaborer avec les institutions établies et avec les gouvernements établis, nous leur disons que nous ne serons pas complices de leur turpitude et que nous voulons contribuer et collaborer à aucun prix, dans aucune circonstance. On va se mettre en opposition carrée au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution.
Bonjour, bonsoir, vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit sur les ondes de CKIA 88.3. Non, nous n'avons pas ressuscité Michel Chartrand,
non,
dont nous entendions la douce voix à l'instant, mais c'était pour faire une dédicace spéciale à Michel Arsenault, qui nous invite à voter pour le Bloc québécois, et à Claudette Carbonneau, qui nous invite à voter pour n'importe qui, pourtant, pourvu que ce soit pas un conservateur. Donc,
à la limite, juste pour se souvenir, la position CSN au moins est moins pire.
Est moins pire, oui. Mais c'était juste en fait pour se souvenir que le syndicalisme, ça a pas été obligé d'être ce que c'est devenu. Donc, vous êtes accompagné de Nicolas,
Jani
et Farouko.
Et cette semaine, on a un retour sur un campement étudiant en face de l'Assemblée nationale qui semble-t-il va se tenir tous les jeudis soirs. On a des blagues qu'on va passer tout de suite après le micro. On a aussi des nouvelles internationales.
Je vais parler d'un blogueur égyptien qui a été condamné à 3 ans de prison, puis aussi d'une manifestation qui a été violemment réprimée au Swaziland.
Et finalement, la suite et probablement la fin de notre dossier sur l'éducation post-secondaire. Tout ça dans la prochaine heure à Voix de Fait sur le 88.3 à Québec.
La blague anarchiste.
C'est quoi la différence entre un bourgeois, sa cravate puis sa ceinture? La cravate serre le cou, la ceinture serre la taille, puis le bourgeois, il sert à rien. C'est quoi la différence entre un député, un patron puis une appendicite? Il y en a pas. Les trois font très mal, mais une fois enlevés, on se rend compte qu'ils servent vraiment à rien. C'est quoi la différence entre une dinde de Noël pis un électeur? La différence, c'est que la dinde se fait fourrer juste une fois par année. Série de blagues sur les enfants. C'est qui l'enfant préféré des homosexuels? C'est Jésus-Christ, car c'est l'enfant le plus connu à avoir eu deux pères. C'est qui l'enfant préféré des bourgeois? C'est Peter Pan, parce qu'il peut voler alors que les autres ne le peuvent pas. C'est qui l'enfant préféré des militaires? C'est le David qui tue Goliath, car c'est le plus connu des enfants soldats. C'est qui l'enfant préféré des sociodémocrates? Les sociodémocrates n'aiment pas les enfants, car ces derniers ne votent pas.
Possédait un pouvoir effrayant, si puissant que ceux qui s'y aventuraient et les affrontaient étaient tués sur le champ. Et seulement 2 hommes ont réussi à survivre.
Garde, meurt mais ne se rend pas.
Meurt mais ne se rend pas.
Ne plie pas, ne casse pas.
Meurt mais ne se rend pas.
Meurt mais ne se rend pas.
Meurt mais ne se rend pas.
Ne plie pas, ne casse pas. La route s'arrête là au bout de mon sabre. Les sages qui entrent ici le savent. Les braves sans une larme sacrifient leurs âmes. Es-tu prêt pour ça?
Vivre où la rose ne pousse pas.
Tenir le micro comme un katana. Briser l'ennemi en combat. Les plaines pliront sous nos sabots. Qui plieront ses nabots. Tremblement de terre c'est haut. L'obscur lâche ses héros. Incandescente. La maître de l'art ancestral. Expert en technique martiale. Te voilà tue de nos jingles.
Comme Sherwood.
Mars bastion de la rébellion. Prêt à guerroyer contre la répression. Sanctionne sans sommation. Nomme tes témoins. Donne l'heure pour la comprendre.
Fier
pour lui démonstration de notre dévotion. Armée de Stormbringer, la peur se tire. Une journée pour vouloir fuir, se repentir, courir, boxir, jouir, courir avec le sourire, finir l'épée au poing, une tête de facho dans les mains. Oublier demain, s'évaporer comme la fumée d'un joint. Mais le triste cire aspire à conquérir la terre, rassembler les légions sous la bannière de la maison mère. Embrasser vos fermières, l'odeur de fer dans l'air.
Annonciateur des flammes de l'enfer, éveiller l'esprit de nos cimetières.
Celle mine à moto, je brandis mon temps trop bien haut. Camin entre les dents, les ronçonnes la charge, sur au marbre.
barreaux d'agneau. Les coiffés l'ont fui face au fléau. Fléau, fléau down, pow, dans le dos, rejoins le très haut. Je boute les gueux hors du sentier. Traque les mécréants, les charges en palefrenier. En serviteur dévoué, les pieds calés dans mes étriers. Sur mon fier destrier, j'en tripaille au nom de mes armoiries. Et nous compterons nos glorieuses batailles lors d'un banquet. Flashbacks sont nos conquêtes passées entre deux gibiers plantés au centre de la table ronde. Le blason pour que tous n'oublient pas. La garde meurt mais ne se rend pas.
Posséder un pouvoir effrayant.
La garde meurt mais ne se rend pas.
Meurt mais ne se rend pas.
Ne plie pas, ne casse pas.
Meurt mais ne se rend pas.
La garde meurt mais ne se rend pas.
Meurt mais ne se rend pas.
Ne plie pas, ne casse pas.
Meurt mais ne se rend pas.
La garde meurt mais ne se rend pas.
Meurt mais ne se rend pas.
Ne plie pas, ne casse pas.
Meurt mais ne se rend pas.
La garde meurt mais ne se rend pas.
Meurt mais ne se rend pas.
Ne plie pas, ne casse pas.
Soldat constat, vu de haut la plaine se dessine. Trace la fresque pour mon estime. Sauf faille mortalise la, la félonie a failli venir vêtir. Mais une troupe résiste avec la arme du désespoir. Dans ce cas, le légal lègue
entre en action.
Force mais de croire qu'il faut un exemple. Capitaine en haillons, allons-y donc fils. Consultez les grimoires tentant qu'ils sombrent dans la folie. Qu'importe les méthodes, le nombre ignoble. Donc serait-ce que capitule les écervelés sous ma colère.
L'échec n'a pas de sens.
Vois le champ de bataille, un château réduit en cendres. Les troupes en tenaille, leurs gentes dames viennent supplier jusqu'à faire donner leur corps. Mais le feu est mort,
la paille n'offre plus de confort.
Reviens à la réalité petit, choisis donc ici. Maintenant ton camp c'est ton dernier choix. Subis la mort ou la loi, jeter le gant. Ignare, espère un duel avec le duc.
Ton âme appartient déjà à Stormbringer.
Ce halo noir qui surplombe ma victoire. Moi du haut de la falaise, pour croiser ma botte sur un coin. Lieutenant, rassemblez la horde de loups. Vite rejoindre Shuriken pour la dernière joute. En route, si vous croisez un étendard avec une flamme encore intacte, brûlez puis tranchez les têtes qui dépassent. Je finirai les incantations pour protéger enfin la maison mère. Merci, éradiquer ces rapaces, eux ou nous. Les astres ont choisi, alors la prophétie fatale s'accomplit. Le hip-hop des chaînes sont courroux, une vision loin, mon frère son rictus. Car la guerre rituelle pour fendre ses adversaires, ça sert. Mon épée démon siffle, chant sourd qui m'enivre. Et bronne ma monture, cap, charge droit devant. Les cendres et les corps témoigneront que tout le monde se souvienne. Et si pas, la garde meurt mais ne se rend pas.
Et seulement deux hommes ont réussi à survivre.
La garde meurt mais ne se rend pas.
Meurt mais ne se rend pas.
Ne plie pas, ne casse pas.
Meurt mais ne se rend pas.
La garde meurt mais ne se rend pas.
Meurt mais ne se rend pas.
Ne plie pas, ne casse pas.
Meurt mais ne se rend pas.
La garde meurt mais ne se rend pas.
Meurt mais ne se rend pas.
Ne plie pas, ne casse pas.
Meurt mais ne se rend pas.
La garde meurt mais ne se rend pas.
Meurt mais ne se rend pas.
Ne plie pas, ne casse pas.
La garde.
Ouais, on vient d'entendre une vieille pièce de Faflarage et Shuriken s'appelant La garde meurt mais ne se rend pas.
Et juste avant ça, c'était la contribution de notre correspondant en région éloignée à Montréal, donc Thomas, qui nous faisait la blague anarchiste. Semble-t-il que ce sera fort probablement la dernière de cette saison.
Ah, il n'y a plus d'inspiration, quoi.
Non, il y a une fin de session qui approche, je crois.
Ah, ces étudiants.
Beaucoup d'engagement. ouais, les étudiants, mais qu'est-ce que tu veux, hein, ça... Justement, les étudiants.
Et
on
voilà.
va en parler des étudiants.
Tu voyais pas ma transition?
je voyais pas ta transition, non. Alors, on est rendu à ce reportage sur un campement qui a eu lieu jeudi dernier à l'Assemblée nationale et qui, semble-t-il, aura lieu tous les jeudis.
Alors voilà, je me dirige vers l'Assemblée nationale où une bande de joyeux lurons a créé un événement Facebook pour inciter les étudiants, les non-étudiants, tout le monde, dans le fond, à aller camper devant l'Assemblée nationale pour dénoncer les hausses de frais de scolarité. Donc, une méthode assez originale, assez imaginative de manifester, de lutter. Et l'objectif, ça a l'air d'être de faire ça à chaque semaine. Donc, c'est assez ambitieux. Donc, allons voir ces manifestants étudiants devant le Parlement.
Au camping, au bord de la piscine, c'est beau de te voir aller.
Jennifer, c'est toi qui as eu l'idée de partir cette initiative-là. De quoi il s'agit exactement? Quel genre de campement c'est?
Ben, enfin, c'est un campement qui est à la base symbolique. C'est que, étant donné la hausse des frais de scolarité, on a constaté que pour la majorité des étudiants, ben, c'est 4 à 6 mois de loyer. Mais ce 4 à 6 mois de loyer-là, on pourra plus le payer si on décide de continuer d'être étudiant. Fait que c'est ça le symbolisme derrière ça. C'est de dire, nous, on veut étudier, mais permettez-nous aussi de nous loger. Si on peut pas avoir de toit, ben on va s'en trouver un nous-mêmes, tu sais. Puis c'est pas ça qui va nous empêcher d'étudier, mais on voudrait que la société nous aide quand même dans ce choix-là qu'on a fait, nous, en tant qu'étudiants.
Mars, là, faut que tu gueules quand tu finis ton Instagram, parce que sinon, genre, les gens, ils font comme... ils ont pas envie de crier, ils ont pas envie de le faire. Après, ils font comme... Ah, oh, ça finit.
C'est une méthode de protester un peu commune. Comment c'est venu, cette idée-là?
Ben en fait, c'est une idée qui est venue quand même assez spontanément. On était assis autour d'un café, on venait se faire confirmer le budget Bachand. Puis spontanément comme ça, je me suis réclamé, ben si je peux plus me loger, je vais aller camper chez Jean Charest. Donc, c'est un petit peu spontané, ça n'a pas du tout été organisé. Puis avec le fil en aiguille, on s'est dit, ben hey, c'est pas une mauvaise idée, tu sais. C'est quand même un moyen de contestation qui est pacifique, mais qui est aussi symbolique. Puis on n'a pas décidé non plus de créer une organisation solide. Notre but, c'est de créer des cellules autonomes qui, spontanément, avec notre cause, vont se dire, hey, nous autres aussi, on est dans le même pétrin, donc on va aller camper aussi en face du Parlement. Puis notre idée derrière ça, c'est de créer un mouvement populaire, c'est que le monde se dise, à un moment donné, jeudi, campement au Parlement, puis que spontanément, sans une organisation précise, que les gens viennent se rassembler ici, viennent montrer leur idée, viennent montrer leur état de fait, qui est, ben si on est étudiant, on ne pourra plus se loger étant donné les frais de scolarité.
Donc c'est un campement autogéré?
Oui, c'est un campement autogéré. En fait, on s'est proclamé réfugiés budgétaires.
Il y a peut-être juste genre deux balles de caoutchouc qui ont été tirées. Ils ont quand même tiré sur la foule.
Ils ont lancé des lacrymos aussi, mais ça, c'est quand ils ont occupé les bureaux de l'Auto-Québec.
Salut Félix, vous autres, vous venez de l'Assomption. Vous êtes deux qui viennent de l'Assomption.
Oui, deux militants qui viennent de l'Assomption. On participe généralement à pas mal toutes les actions politiques concernant la hausse des frais de scolarité. Pour nous, c'est un enjeu très important, étant donné qu'on va s'endetter de plusieurs milliers de dollars déjà avec les frais de scolarité présents. C'est important pour nous d'aller militer contre cette hausse-là.
OK. Puis vous êtes dans quelle institution exactement?
Dans le cégep de l'Assomption. Je suis le président de l'association étudiante.
Est-ce que vous êtes affilié à une grande centrale?
Non, on est un cégep indépendant. On considère une affiliation à une centrale ou pas. On magasine un peu, on va dans les congrès. On y pense, mais on a fait des congrès de la FEC à date. On veut aller dans un congrès de la C prochainement.
Okay.
Donc, on y réfléchit, mais on croit que pour le moment, on va rester indépendant.
OK, avis aux intéressés. Puis c'est quoi, sinon, votre position par rapport aux hausses de frais? C'est quoi que vous prenez?
On n'a pas pris position pour un gel ou pour la gratuité scolaire, mais on est unanimement contre la hausse des frais de scolarité. C'est une mesure qui va nuire à l'accessibilité aux études pour quel que soit le profil étudiant, surtout pour les gens issus de la classe moyenne ou des classes plus pauvres. Et nous, on croit que c'est important de préserver l'accessibilité aux études. C'est quelque chose qu'on doit protéger au Québec. C'est un acquis social. On y participe cette semaine. On espère organiser un événement de déplacement d'au moins une dizaine de personnes dans une des semaines à venir pour avoir une plus grosse mobilisation de l'Auto-Québec.
C'est ça, les agents de sécurité nous laissent le secteur ici.
Est-ce que tu as été inspiré par quelque chose? Parce que je pense qu'il y a des mouvements justement de sans toit. Ben, je pense au camp des 400, c'est un peu cet esprit-là, c'est d'aller camper pour dénoncer le manque de logement. Est-ce que tu t'es inspiré de ça?
En fait, non. Moi, ça vient plutôt d'une expérience personnelle. Je suis allée 3 semaines au Pérou dans un bidonville qui s'appelle Villa El Salvador. Puis ces gens-là, en 30 ans, ont décidé, étant donné qu'ils étaient dans une situation de sans logement, ont décidé de s'approprier un terrain à proximité de Lima. Ils se sont organisés, puis en 30 ans, c'est devenu une petite cité viable, totalement organisée. Puis c'est ça que ce message-là aussi que je voulais faire passer, c'est que on n'est pas des gens démunis. On est des gens qu'on nous a enlevé quelque chose qui est à nous. Donc, on demande pas de l'aide nécessairement de personne. On demande juste aux gens de constater qu'est-ce que ça fait de pas avoir de toit pour être étudiant, tu sais. De venir passer une nuit ici puis de constater que on veut étudier, mais on doit le faire dans des conditions comme celle-là.
Là, Jennifer, parle-moi un peu de toi. Est-ce que t'es une militante aguerrie? De quel milieu est-ce que tu viens? Est-ce que t'es membre d'une organisation?
En fait, non. Moi, j'ai été quelqu'un qui m'a toujours tenu loin du militantisme actif, si on veut. J'ai toujours défendu les causes qui me tenaient à cœur, mais je fais pas partie d'aucune organisation politique. Je fais pas partie d'aucune organisation de mobilisation, que ce soit étudiant ou sociale. En fait, moi, mes origines, je suis une fille qui vient de l'Abitibi, qui a décidé de venir à Québec pour étudier. En fait, je suis étudiante en philosophie politique en ce moment. Puis, c'est tout simplement ce message-là que je veux transmettre. C'est qu'on est du monde ordinaire. On est du monde qui veulent juste défendre leurs droits puis leur capacité d'étudier, tu sais. Puis je veux montrer aussi aux gens que t'as pas besoin d'avoir fait 8 ans de militantisme en arrière de ta cravate pour être capable de faire une activité comme celle-là. Il suffit d'avoir la volonté puis le goût de le faire. Je veux dire, on est humble là-dedans, là. On espère pas faire une révolution avec ça. On veut juste montrer aux gens que si on veut faire une idée, si on veut la démontrer, ben on prend notre pack-sac, on amène notre tente puis on le fait. Point. C'est vraiment ça le message, c'est de le faire, point.
C'est en joke, elle a dit payer ton ennemi, puis là, il y en a un qui fait non, moi je suis un régulier, moi je suis un.
Donc salut, pourquoi est-ce que tu participes au campement?
Bon, en fait, mon amie Jennifer a initié le mouvement, puis je trouvais que c'est une super bonne idée, en fait, pour mobiliser les gens, en fait, à la question de la hausse des frais de scolarité. Puis j'avais envie de m'impliquer, donc je décide de venir.
Et pourquoi est-ce que ça te mobilise, justement, la cause des hausses de frais de scolarité?
Ben, j'ai l'impression que ça entraîne une réduction de l'accessibilité à la scolarité, justement, puis à mon avis, ça, c'est un grave problème dans la société, de prôner, justement... une réduction à l'accès à l'école, à mon avis, c'est inconcevable. Moi, je suis étudiante en philosophie à la base. Je viens de Québec, puis moi, c'est mon université à laquelle je voulais aller, en fin de compte. Mais je suis bien déçue, en fait, que cette hausse de scolarité-là s'applique à toute la province de Québec.
Et est-ce que tu as déjà participé à d'autres actions politiques, à peut-être d'autres manifestations, des trucs comme ça?
En fait, je suis dans aucun comité de mobilisation, puis j'ai participé à la marche contre les hausses de frais de scolarité le 12 mars dernier.
Premièrement, on sait qu'il y a 45% des étudiants qui sont présentement à l'université qui sont issus de la classe moyenne, qui sont les premiers de leur famille à mettre les pieds à l'université. T'sais. On pense pas qu'une hausse des frais de scolarité va empêcher les gens d'étudier formellement, mais ça va empêcher les gens peut-être qui en ont le plus besoin dans notre société en ce moment d'aller acquérir les connaissances pour leur permettre de sortir de la situation dans laquelle ils sont. Moi, je viens d'une famille qui vit bien. Mes parents, ils ont de l'argent. Mais à 3 enfants, si tu dois financer les études de tes 3 enfants, premièrement, tu leur enlèves leur autonomie, qui est une chose quand même assez importante, je crois, quand t'es rendu à l'université, d'être autonome, de toi-même gérer tes études. Puis tu obliges les familles à faire des choix qui sont quand même importants. Moi, si ma mère m'aurait dit « Ben, je suis désolée, ta sœur est à l'université, tu pourras pas y aller, on peut pas te le payer. » Qu'est-ce qui me reste? Je dois aller travailler 15 heures semaine, me taper des B- des C+ de moyenne parce que j'ai pas le temps d'étudier. Ou je vis sur le seuil de la pauvreté à me consacrer entièrement à mes études puis à plus avoir de logement.
Comment ça va se passer? Vous allez dormir ici cette nuit. Comment est-ce que ça va se dérouler?
Pour la gestion des tâches, bon, étant donné la météo, ça va être un principe assez simple. On va dire, quelqu'un qui a froid, bon, ben, va donc chercher de l'eau. Pour ce qui est de quand on va partir, ben, il y en a plusieurs d'entre nous qui auront un travail, qui ont des choses à refaire. Fait que, bon, la nuit risque d'être courte, fait qu'on va partir quand même assez tôt, j'ai l'impression. Mais pour ce qui est de la gestion, si tu parles plus de la soirée, comment on va passer notre soirée, comment on va passer notre temps? C'est notre deuxième édition cette semaine. Donc, on a constaté que spontanément, les gens ont apprécié parler de ce qu'ils font. Donc, on a eu un petit peu un phénomène d'université populaire. Chaque personne à tour de rôle, pendant une demi-heure, une heure, expliquait quelque chose qui, pour lui, était important. On a eu un cours de thermodynamique. Je pourrais pas répéter la moitié de ce qu'il dit dans ce cours de thermodynamique-là, mais c'est super intéressant pour un étudiant qui est en philosophie. Puis pour un étudiant qui est en génie, ben ça doit être quand même intéressant pour lui de comprendre des choses à laquelle il n'a pas accès. Donc, c'est une manière aussi pour nous de partager ce qu'on apprend, tu sais.
OK, Jennifer, t'aimerais-tu ajouter quelque chose avant de terminer?
Je voudrais juste demander aux gens, quand ils ont une idée, faites-le. Tout simplement. Je veux dire, je comprends que c'est important de parler, de critiquer, de lancer les idées, mais l'action, je pense, c'est le cœur de la chose. Puis c'est par l'action qu'on exprime aussi notre liberté, je pense, puis c'est fondamental.
Super, bien, merci beaucoup, Jennifer. S'il y a une chose que vous devez garder en tête suite à cette action-là, c'est que oui, c'est possible de camper devant l'Assemblée nationale sans se faire saler par la police. Alors, ça devrait en inspirer plus d'un. Alors voilà, une initiative de quelques étudiants, pas nécessairement des militants aguerris, des gens qui sont en colère contre le budget, contre les hausses de frais scolaires. Et parmi eux, il y avait effectivement quelques gens avec leur badge de Québec solidaire, donc des militants, des non-militants. Un beau mélange. Donc des jeunes prêts à se prendre en main, à prendre leurs intérêts de classe en main. C'était un reportage de François. We'll be right back.
Hey, vous êtes toujours sur les ondes de Voix de Fait à CKIA 88.3 Québec. On comprend que dans le collectif Anarchiste la Nuit, il y a plusieurs goûts musicaux. Alors après le country, on a eu, c'était quoi ça?
Ça c'est Anthrax avec Indians.
Donc voilà, c'est un choix musical éclectique, diversifié, mais abstentionniste. On va sur les nouvelles internationales?
Oui, premièrement, c'est un blogueur égyptien qui était condamné à 3 ans de prison. Lui, il est condamné pour avoir critiqué les forces armées sur Facebook. C'est un premier jugement de ce genre depuis que le pays est dirigé par un collège de généraux suite à la chute du dictateur Hosni Moubarak, qui d'ailleurs a été victime d'une crise cardiaque cette semaine. Ce verdict a suscité l'indignation des organisations de défense des droits de l'homme pour inquiéter l'important réseau de blogueurs égyptiens qui espéraient que le départ de Moubarak sous la pression de la rue allait ouvrir la voie à une ère nouvelle de liberté d'expression. Malheureusement, le gros militant de Nar City au Caire a condamné Michael Nabil à 3 ans de prison, a déclaré son défenseur, Maître Gamal Ed. Les avocats n'étaient pas présents, le verdict a été prononcé pratiquement secret, a été précisé. Le verdict, dans le fond, était supposé le donner le verdict était attendu mercredi, mais il a été reporté à dimanche. Les avocats ont été au tribunal dimanche, mais on leur a dit de partir parce qu'ils ont dit qu'il n'y aura pas de sentence. Nous avons ensuite été très surpris d'entendre qu'il avait été condamné à trois ans, a affirmé l'avocat qui est le directeur du réseau arabe d'information sur les droits de la personne qui défend la liberté d'expression. Selon Reporters sans frontières, ils se sont dit profondément choqués par cette condamnation qui fait selon elle du blogueur le premier prisonnier d'opinion en Égypte depuis la révolution. Les méthodes utilisées par les autorités militaires égyptiennes ne semblent pas avoir évolué depuis la chute d'Hosni Moubarak. Elles montrent à quel point l'armée, sujet tabou dans le pays, reste hermétique à la critique, affirme Réseau sans frontières. Voyons. Reporter sans frontières, désolé. Il y a Human Rights Watch qui a demandé à l'armée de l'annulation du procès. L'armée devrait abandonner toutes les charges retenues contre lui en raison des commentaires postés sur Internet critiquant l'appareil militaire. La police militaire avait arrêté le blogueur le 28 mars dernier après qu'il y ait eu des postés sur Facebook des commentaires critiquant l'armée. Puis ces commentaires et les informations qu'il a publiées sur Facebook ont été utilisées comme preuve contre lui lors de son procès. Puis l'an passé, un blogueur qui avait publié des conseils sur la conscription avait été, selon ses avocats, condamné à 6 mois de prison pour divulgation de secrets militaires. Puis les blogueurs égyptiens ont été de multiples reprises utilisés par des mesures répressives ces dernières années. Puis l'armée qui s'occupe, dans le fond, de la transition du pouvoir entre la dictature et le gouvernement civil fait l'objet d'accusations croissantes de la part de l'Organisation de défense des droits de l'homme. Donc, ça va être un sujet à suivre.
Effectivement. Tu avais un autre?
Oui. C'est au Swaziland. Ça, c'est un petit pays qui se trouve entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Il y a eu une manifestation qui était violemment réprimée. La police du Swaziland a réprimé dans la violence mardi une manifestation interdite contre le dernier monarque absolu d'Afrique frappant un coup de matraque le milieu d'enseignants et d'étudiants qui avaient osé sortir dans la rue. Les policiers ont envahi les locaux d'un syndicat d'enseignants où s'étaient réfugiés les manifestants, refoulés avec des canons en haut et des tirs de gaz lacrymogènes, et ont frappé les protestataires avec des matraques à rapporter d'enseignants présentes sur place. Ce millier de militants avait tenté de rejoindre le centre de Manzini, la principale ville du petit royaume enclavé sur la péninsule du Mozambique, où était appelée une manifestation sans précédent contre le régime. Ça n'a jamais eu lieu. C'est l'armée l'armée avait été déployée dans les rues, selon le réseau de solidarité avec le Swaziland, un groupe pro-démocratie qui est basé en Afrique du Sud. Le chef de la police, Isaac Magagula, avait prévenu que ses services, l'armée et la police, étaient justifiés. Était prêt à affronter les manifestants qui, selon lui, sont infiltrés par des éléments révolutionnaires, selon lui, sont des démons qui ne doivent pas être tolérés. Selon lui,
il y a des démons.
Oui.
Démons.
qui évoquait des militants armés cachés dans les forêts du royaume qui seraient prêts à s'emparer du pouvoir par la force. La police a arrêté très opposée ce mardi matin alors qu'il se rendait à Manzini. Selon le secrétaire général du syndicat d'enseignants, SANT, lui-même interpellé en barrage routier. La police choisie a aussi brièvement interpellé au moins 6 journalistes dans 2 reportages de l'agence France Presse, selon des comptes établis par l'AFP d'après des rapports des médias concernés. Les syndicats et les organisations d'étudiants, seule force d'opposition tolérée dans un pays où les partis politiques sont interdits depuis le 12 avril 1973, avaient décidé de manifester contre le régime du roi... Je vais te dire comment ça se prononce, mais je ne le prononcerai pas parce que ça reste assez compliqué. MSW, c'est 3, c'est ça. Répondant à un appel lancé sur le réseau social Facebook. Donc, ton jour de manifestation était prévu à partir de mardi à Mandini contre le roi qui gouverne le pays d'une main de fer depuis 25 ans. En fait, il y avait un autre article sur Bypress qui parlait aussi que dans ce pays-là, le monde, ça crève de faim, puis le président est rendu à sa 13e femme, puis les autres, ils ont tous des jets privés puis des cartes de crédit pour aller manifester dans d'autres pays, pour aller manifester, désolé, aller magasiner.
Oui, magasiner, manifester.
C'est pas pareil.
Puis aussi, le problème du sida aussi qui est vraiment grave. Puis je pense que 26% de la population est affectée, là, d'affaires comme ça, puis le gouvernement ne veut absolument rien faire. Donc, c'est entre autres ça, ces raisons-là qui font en sorte que le monde manifeste, mais ça a l'air d'être mal parti pour eux autres.
Eh bien. Donc, nous, on s'en va en musique, c'est ça?
C'est tout.
C'est tout. Et on va revenir avec la suite du dossier éducation. C'est quoi que tu nous mets, Farouko?
Webster.
OK.
J'ai pas le choix, faut que je me force. Allons, je peux pas pocher, faut bûcher pour que je m'en sorte. Faut que j'aie les crédits avant que je pète les plombs devant. Quand je le prédis, je me quête, foutu diplôme. Pour l'instant, c'est un autre. J'ai pas le choix, faut que je me force. Allons, je peux pas pocher, faut bûcher pour que je m'en sorte. Faut que j'aie les crédits avant que je pète les plombs devant. Quand je le prédis, je me quête, foutu diplôme. Pour l'instant je t'endormis, dans quoi je suis encore mis. J'avoue là je t'ensevis, j'y ai passé toute la nuit. Deux travaux pour mardi, en plus faut que j'étudie. Le café qui refroidit et je m'endors, j'étudie. Les probes avec l'ordi, soit qui boxe, soit qui plante. Plus de papier dans l'imprimante, c'est en cours de print que l'an qui manque. J'en ai su et tout ça, ça valait juste 10% à la dernière minute. Prêtes-tu des notes, trop d'absence dans les cours. Quand j'y vais, je suis en retard. Toute la classe se retourne et le prof qui se dit encore. J'suis les grilles en passant, j'débarque, me guette une place. Juste un petit bout de crayon, t'aurais pas une efface. Peut-être parce que j'sens sanguine, mais j'sens qu'il parle trop vite. J'ai même pas le temps d'écrire d'autres notes qu'il faut que j'décris. Puis dans le jus, c'est petit tour. J'ai plus le temps pour studio. C'est un travail fastidieux, pas le choix de le faire studieux. Encore un autre, j'ai pas le choix, faut que je me force. Allons, je peux pas pocher, faut bûcher pour que je m'en sorte. Faut que j'aie les crédits avant que je pète les plombs devant. Quand je le prédis, je vais qu'être foutu diplôme. Pour l'instant, c'est un autre, j'ai pas le choix, faut que je me force. Allons, je peux pas pocher, faut bûcher pour que je m'en sorte. Faut que j'aie les crédits avant que je pète les plombs devant. Quand je le prédis, je vais qu'être foutu diplôme. Je sais que c'est lave à l'univers, que c'est veggie au collège. Pour mes foot secondaire, les youths du primaire. Faut que tu bûches, faut que tu fonces, faut que tu bouches, faut que tu forces, faut que tu move et te concentres. Garde le focus, je sais que c'est hard, mais bon, faut que tu work pour ton future. Encore un effort, mène demi-mort comme H. Couche, non, il est maintenant bouge. Toi, tu payes pour toutes les fois que t'as voulu chiller. Maintenant, le bon temps, tu le dois. Encore un autre, j'ai pas le choix, faut que je me force. Allons, je peux pas pocher, faut bûcher pour que je m'en sorte. Faut que j'aie les crédits avant que je pète les plombs devant. Quand je le prédis, je vais qu'être foutu diplôme. Pour l'instant, c'est un autre, j'ai pas le choix, faut que je me force. Allons, je peux pas pocher, faut bûcher pour que je m'en sorte. Faut que j'aie les crédits avant que je pète les plombs devant. Quand je le prédis, je vais qu'être foutu diplôme. Yeah, non. Je vais dédier ce track à tous ceux qui sont sur le hustle scolaire, non. À tous ceux qui sont sur le grind en ce moment, qui étudient fort pour un examen, pour un travail, non. Keep your head up, man. Shit. Fais un big big up à mon boy Show Me, non. En train de faire sa maîtrise, straight up, that's how it is. What up à mon cousin Loki, what up, man. What up à Seth, Ahmed, you know. What up Anne-Pierre, my baby love, no, lâche pas. What up à Marie-Hélène, that's how it is, no. Marie aussi. Yo, what up Fadel, Jean-Mo, you know. Dumb, d'être the dumb, man. Reviens dans le studio, G, on t'attend, you know. Yo, big up, you know. Mon boy Thompson, man, lâche pas, G. Yeah, what up, ma cousine, mamie. Tu finis bientôt, no, keep your head up, man. Yo, c'est important, G, man.
Hey, c'était Webster sur les ondes de CKIA 88.3, une de ses nombreuses tunes sur l'éducation. Puis là, c'est con, je me souviens plus du titre de la chanson.
Un autre rush.
Un autre rush, mais oui, hein. C'est un gars. Tiens donc.
Un gars.
Donc, la semaine passée, on a commencé un dossier sur l'éducation post-secondaire. Alors, vous vous en rappelez sûrement, le 6 avril, le budget est adopté à l'Assemblée nationale. Dans ce budget-là, il y a une hausse des frais de scolarité de 74%. Il y a quand même un débat là-dessus qui fait rage et qui est important. Puis, ben, nous, on considère que ça concerne pas juste les étudiants, la question des frais de scolarité. Ça concerne les étudiants, ça concerne leurs parents, ça concerne leurs proches, ça concerne des gens qui ont des enfants qui vont éventuellement aller à l'école. Puis finalement, ça concerne un peu tout le monde parce que l'éducation, c'est une question sociale qui concerne un peu tout le monde. Donc, dans les faits, là, c'est ça. C'est pas juste les jeunes qui sont sur les bancs d'école. Si on regarde, on peut le regarder de deux façons. On peut le regarder dans la logique comptable. La Fédération étudiante universitaire du Québec sait très bien à qui elle s'adresse, utilise un peu cette logique-là quand elle dit que l'éducation universitaire est rentable. Effectivement, dans une économie comme l'économie québécoise, on peut pas vraiment se passer des universitaires. C'est pas la seule chose dont on a besoin, mais c'est une des choses dont on a besoin en masse. Il faut savoir que la majorité des nouveaux emplois demandent une formation universitaire, mais en plus, comme il y a une pénurie de main d'œuvre qui est annoncée, on peut pas se passer non plus de la productivité accrue qui est généralement associé à l'éducation postsecondaire. D'ailleurs, on peut pas non plus se passer de la part des universitaires aux finances publiques. Alors, on parle souvent des riches, qui contribuent pas, ou des choses comme ça. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que 33% de l'impôt sur le revenu vient du 15% de contribuables qui ont un diplôme universitaire au Québec. Donc,
ceux qui font pas assez pour s'en sauver.
Ouais, c'est ça. Puis ils reçoivent juste 9% des transferts. Donc, tu sais, c'est comme, ils contribuent pas mal plus que ce qu'ils vont chercher. C'est correct comme ça aussi, mais tu sais, c'est comme quand on dit, là, que, je veux dire, ça coûte cher l'éducation, puis que ça bénéficie juste à l'étudiant, c'est pas tout à fait vrai. Puis, bon, si on sort de cette logique comptable-là, ben, l'éducation a quand même des finalités qui sont aussi importantes pour la société. Par exemple, il y avait l'IRIS, là, l'Institut de recherche socio-économique, là, la boîte à idées progressiste, qui s'est très longuement penché sur la question et qui en vient à la conclusion que la formation postsecondaire est reléguée à un rôle d'investissement individuel dans son capital humain, ce qui est en fait une façon d'accentuer la marchandisation croissante du savoir universitaire. Sauf que, comme eux, ils soulignent, disent, le rôle de l'université dépasse la stricte formation de la main-d'œuvre. Évidemment, il s'agit également d'un lieu de socialisation, de débat, de recherche et d'avancement. Donc, l'université, en plus d'être rentable, avec des gros guillemets, elle a une utilité sociale indéniable.
On s'entend qu'à l'origine, l'université, c'est pour apprendre, hein?
Eh oui.
Pour partager les connaissances.
Mais l'université, dans une société capitaliste avancée, elle apprend, partage les connaissances. Donc, en quelque part, une formation de la main-d'œuvre. Mais aussi tout le volet de la recherche.
Mais oui.
L'innovation. C'est pas simple, ça. C'est pas évident. Bon, donc, pour toutes ces raisons-là, la question des frais de scolarité ne concerne pas que les étudiants qui sont actuellement sur les bancs d'école.
Ben non.
Concerne tout le monde. Même toi qui as un diplôme d'études secondaires, même moi qui ai un diplôme d'études secondaires.
Et maudit. Donc,
et mes filles qui n'ont même pas leur diplôme d'études primaires.
Ouais, mais hein, quand est-ce que la société capitaliste va attaquer les frais de scolarité primaire et secondaire?
Ah boy.
C'est la prochaine étape logique?
Bon, non, on commence par le collégial quand même.
Ouais, c'est sûr.
Mais c'est déjà commencé, hein, secondaire. Il y a quand même des programmes d'études qui sont tarifés, mais c'est pas dans le système public. On s'entend, ouais. Mais il y a... Tu veux devenir chauffeur d'autobus à la Ville de Québec, c'est 3 000 $.
Hein, pas pire.
Et c'est un programme qui est donné par une commission scolaire publique.
Mais c'est... Wow.
C'est secondaire. Mais c'est ça, c'est la vie, parce que c'est un programme spécifique qui a développé précisément pour un employeur en particulier. Soit le réseau de transport de la capitale. Mais là, on s'éloigne de notre sujet.
Donc, la
semaine passée, on est revenu sur la question de savoir qui sont les étudiants. Est-ce que les étudiants sont tous des gros durs qui habitent chez leurs parents, qui ont un iPod, un Blackberry puis un char dans le parking? Eh bien, non. Il y a de ça, mais il y a aussi le fait que une majorité d'étudiants travaillent pendant leurs études, puis qu'il y en a au moins la moitié qui vivent dans la précarité financière avec moins de 12 200 $ par année, et que ces gens-là visiblement auraient de la difficulté à faire face à une hausse de frais de scolarité. Donc il y a la moitié des étudiants universitaires aujourd'hui qui seraient dans la chenoute, advenant le cas où il y a une augmentation de 74% des frais, et à défaut de pourraient peut-être continuer à étudier, mais en s'endettant lourdement, encore plus qu'ils ne le sont déjà.
Au lieu d'être 3 d'un 5,5, ben ils seraient 4 d'un 5,5.
Et au lieu d'avoir une dette moyenne de 17 000 $ à la fin du bac, ils auraient une dette de, mon Dieu, je sais pas moi, 30 000 $ peut-être. Si le bac coûte 15 000...
Au fond, ils devraient s'hypothéquer de quoi?
Oui, ils hypothèquent leur avenir pour l'instant. Donc les étudiants ne sont pas tous des fils à papa, des filles à papa. Il y en a qui ont besoin d'aide, et ces gens-là, écoute, on les aide peut-être pas autant qu'on devrait. Est-ce que l'université est vraiment accessible au Québec? C'est une question qu'on peut se poser, parce que on a regardé un peu là, la dernière fois, puis on a vu que dans les classes populaires, c'était pas mal moins accessible que dans les classes plus aisées. Donc, 40% des enfants du cinquième, là, de la population qui a le plus d'argent, qui va à l'université, puis il y en a juste 19% du cinquième le plus pauvre. Donc déjà là, on a un écart. Au Québec, on s'était donné un moyen pour contourner ça. C'est d'ailleurs une excuse du gouvernement. C'était le système de prêt-bourse. Ça, c'était pour remédier à la situation. Écoute-toi, la mission de l'aide financière aux études, c'est, et je cite, « d'empêcher par l'attribution d'une aide financière adéquate que le manque de ressources financières soit un obstacle pour les personnes qui désirent poursuivre des études et qui ont la volonté et la capacité de le faire. » Et là, le gouvernement, il nous dit, c'est pas grave qu'on hausse les frais de scolarité, parce que pour les étudiants sur les prêts et bourses, la hausse de frais de scolarité va être automatiquement reversée en bourse. Et effectivement, il y a un tiers des frais de scolarité qui vont venir des poches des étudiants, qui vont être reversés au système de prêts et bourses. Donc, ça changera rien pour les étudiants les plus pauvres. Ouf! Ce que j'oublie de dire, c'est que pour avoir accès aux bourses, il faut que tu aies le maximum de prêts.
Et voilà.
Donc, pour tous ceux qui sont juste au-dessus des étudiants les plus pauvres, ben ils vont tous s'appauvrir davantage, ils vont tous finalement s'endetter davantage jusqu'à tomber finalement dans les bourses. Ça, c'est la première chose. Sauf que, indépendamment de ces contingences particulières, qui font en sorte que... Parce qu'il y a quand même juste 25% des étudiants qui ont accès aux prêts et bourses, puis là-dessus, c'est pas tout le monde qui est sur le maximum de prêts. Là.
Nice.
Donc, indépendamment de ça, un examen qui est un peu approfondi du système en place permet de constater qu'il n'est pas du tout adapté à la situation, et qui produit et reproduit des inégalités plutôt que de tenter de les atténuer. Tout d'abord, il y a la question de la dette. OK? Parce qu'il faut aller chercher le maximum de prêts avant de pouvoir toucher une bourse. La dette, là, ça n'a pas le même impact, dépendamment de où ce qu'on vient dans la vie. OK? C'est la FERC qui rappelait, ça leur arrive des fois d'avoir une pensée pour eux, que les plus défavorisés d'entre nous sont ceux qui ont le plus de risques de surestimer le coût des études et de sous-estimer leur rentabilité. Si tes parents ont étudié à l'université, qu'ils ont fini avec 25 000 piastres de dette, puis qu'ils ont fini de les payer à 35 ans à leur dette, et qui maintenant, ça va bien, il y a de fortes chances que tu te dises, baf, c'est pas si pire.
C'était un mauvais bout à passer.
Si tes parents en ont arraché toute leur vie, si t'en as arraché toute ta vie, puis qu'on te dit que pour aller à l'université, il va falloir que tu t'endettes de 17 ou 20 000 $ que tu vas en baver pendant tout le long que tu vas être à l'université, puis qu'en plus, au bout, t'es pas sûr que tu vas avoir une job.
T'auras pas de job, puis tu vas avoir des dettes.
Il y a des chances que tu fasses, ouf, sais-tu finalement parcours technique, ce serait peut-être pas une mauvaise idée.
Un petit DEP. Hein?
Ouais, un DEP ou un DEC, c'était bien ambitieux.
Oh!
Ben, c'était bon à l'école, tu sais, par exemple.
Ouais, ben, une technique, quoi.
Ben, en tout cas, moi, j'ai étudié dans des écoles, dans des quartiers populaires, puis c'était clair, net et précis, qu'ils nous orientaient pas vers un DEP si on était bon à l'école.
Non, il t'envoyait à technique.
Il t'envoyait à technique, c'était évident. Et à l'université, c'était bien hot, là. Moi, en tout cas, il poussait fort pour qu'on aille avec les profils de sciences. Mais bon.
Moi, au secondaire, ils m'ont poussé vers le DEP.
Ouais, ben, en tout cas, moi, je réussissais très bien, même si j'étais dans un quartier populaire. Puis, ça n'a pas donné grand-chose, sinon j'aurais peut-être dû faire un DEP. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est mon problème à moi.
Ah non!
Donc c'est ça. L'AC critique le régime des prêts et bourses sur plusieurs plans. L'AC, ça, c'est l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. C'est le regroupement, le pôle syndical combatif dans le milieu étudiant. D'abord, parce que le système est difficile d'accès et parce que chaque contre-réforme est venue réduire le taux de participation. Aujourd'hui, c'est même carrément impossible de changer de programme en cours de route parce que la période d'admissibilité au prêt et bourse a été réduite au strict minimum. Donc, dans les faits, il faut que tu fasses ton parcours dans les temps prescrits. Et ce qui veut dire que, à moins d'avoir été chercher tout un paquet de préalables qui font que changer de programme ne rallongera pas tes études, c'est impossible. Il faut qu'à 17 ans, quand tu rentres au cégep, tu saches où tu t'en vas, sinon tu n'y as pas accès.
Puis, si tu changes, là, mettons, tu passes de sciences humaines à technique, t'es fourré.
Ah ben, t'es fourré, ça.
Complètement, bien. Parce que j'ai déjà essayé, là, puis technique, même si t'as déjà ton DEC, là, technique, là, il te reste encore un 28 heures de cours par semaine à faire.
Ouais, ouais.
Même si j'avais mon deck, là, c'était encore là, des heures de fou. J'ai fait quoi, moi? J'ai un deck en sciences humaines, mais tout le monde s'en fout.
On s'en fout, t'en as pas besoin, c'est pas un préalable du tout.
Ben non.
Et d'ailleurs, donc c'est ça, c'est réduit au minimum. Autre critique récurrente du régime des prêts et bourses, c'est la maudite notion d'autonomie et de contribution parentale qui sont complètement irréalistes. Il y a la moitié des étudiants qui n'ont pas droit aux prêts et bourses, qui vivent en appartement, mais qui ne sont pas considérés autonomes par l'État. Parce qu'ils n'ont pas passé 2 ans en dehors de l'école, sur le marché du travail, pas chez leurs parents.
Les parents, ils font encore trop d'argent.
Trop d'argent. Puis c'est vrai, hein, les parents, ils devraient contribuer à l'éducation de leurs enfants. Et d'ailleurs, c'était ça l'idée là, de la contribution parentale, c'est de dire l'éducation des jeunes, c'est d'abord une responsabilité familiale, une responsabilité du jeune. Sauf que c'est devenu purement théorique. Une famille nucléaire de 2 enfants doit contribuer à l'éducation de son jeune, donc donner des sous à partir du moment où le revenu combiné des 2 parents dépasse la mirobolante somme de 30 735 $.
Ça, c'est avant impôt.
Oui.
Fait qu'au fond, il te reste 15 000 piastres.
C'est complètement ridicule. Ça, c'était les chiffres de 2007. C'est le plus bas montant au Canada. Juste pour comparer, là, le seuil de contribution parentale dans le programme fédéral de prêt et bourse est fixé à 70 000 piastres. Donc, il y a comme une marge, là. Et quoi qu'en pense l'État, là, dans la réalité, ces règles sont tellement strictes que le 2/3 des bénéficiaires du régime de prêt et bourse n'ont aucune contribution parentale. Dans les faits, concrètement, les parents ne contribuent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de contribuer.
Si un jour vous pensez vous reproduire, mettez tout de suite l'argent dans un compte d'épargne étude.
si jamais vous voulez vous reproduire, il faut tout de suite inscrire votre fœtus à la garderie, commencer à mettre de l'argent de côté dans un compte d'épargne étude et se prendre des REER pour pas être à sa charge plus tard.
Hey, c'est compliqué.
S'il vous reste des sous, vous mangerez. Sinon, vous irez voir au CLSC, il y a un programme holo. Donc, trêve de plaisanterie. Comme si c'était pas suffisant, ben justement, aller au CLSC pour manger, le régime public verse des allocations qui sont nettement insuffisantes sur les prêts et bourses. En 2009, l'aide financière aux études allouait 740 $ par mois aux étudiants, alors que dans les faits, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Puis, donc, c'est ça coûte beaucoup plus cher, en fait, 1120 $ par mois pour vivre. Et on arrive là... Dans les faits, là, c'est comme c'est rendu tellement rough le système de prêt et bourse qu'il y a un taux de participation qui est en chute libre, par exemple dans les cégeps. Dans les cégeps, c'était 32% des étudiants il y a 15 ans qui passaient par le régime de prêt et bourse. Aujourd'hui, c'est 23%. Parce que les jeunes, ils préfèrent travailler que d'ajouter une dette de 4 500 $ à ce qu'il va leur coûter leurs études universitaires.
Ils travaillent toutes,
hein? Ben oui, mais c'est, dans le fond, tu sais, c'est comme 4 500 $ en 2 ans, donc 2 300, t'as tout ce bien de travailler plutôt que de...
Hey, 2 300 par année, hein?
Non, c'est débile, là. C'est le prêt moyen, mais il y a peut-être des bourses aussi. Puis c'est ça, ce serait 8 000 $ dans le cas d'un parcours technique. En tout cas, bref, les étudiants, aujourd'hui, de plus en plus, s'endettent. Écoute, c'est 70% des étudiants universitaires qui vont s'endetter pendant leurs études. Là-dessus, il y en a 42% que ça va être à cause des prêts et bourses, puis les autres, ça va être directement privé. La dette moyenne là, c'est de 11 500 comme je le disais, puis pour les étudiants moins fortunés, c'est 17 000. Donc, dans les faits, là, l'endettement, selon l'AC, c'est un mécanisme de reproduction des inégalités sociales qui transforme un droit en privilège pour certains et en sacrifice pour d'autres. Donc, on peut le dire, c'est super cool au Québec, on a un super beau modèle. Mais est-ce que l'université est vraiment accessible? Oui, mais au prix de sacrifices injustes et de la reproduction d'inégalités sociales. Puis, il faut le dire, là, l'endettement étudiant, ça profite à qui? Ça profite aux banques. Essentiellement aux banques.
C'est pas compliqué.
Et donc, avec le et le pire là-dedans, là, pour finir sur ce bout-là, puis après ça, je vais embrayer sur le dernier bout avant la fin de l'émission. Pour la C, là, si on cumule là, le poids des intérêts et l'endettement, finalement, ça va être ceux qui avaient le moins de moyens financiers qui vont payer le plus cher leur passage aux études postsecondaires.
Mais oui, ils payent des intérêts.
Ils payent des intérêts, ils payent une fois et demie leur prêt.
C'est malin.
C'est débile mental. On leur prête de l'argent pour qu'ils aillent à l'école. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour y aller.
Mais après ça, ils payent en double avec leurs impôts, puis ils payent avec les intérêts.
Puis ils payent avec les intérêts. Puis le pire, c'est que c'est des peanuts, man. C'est le financement universitaire, là, ce que ça permet, là, les frais de scolarité, là, c'est des peanuts. Écoute, on va y aller tout de suite avec qui devrait payer et comment, puis y a-t-il une alternative aux frais de scolarité? Brièvement, là. Ben d'abord, première question, là, il y a la question du sous-financement. Ok, depuis des années, il y a des acteurs du monde de l'éducation qui crient au sous-financement. T'as le CREPUC qui dit que ça, c'est la conférence des recteurs et principaux des universités du Québec, qui dit que le sous-financement du réseau universitaire est de l'ordre de 315 millions. Puis t'as la Fédération des cégeps qui dit que au collégial, c'est 305 millions. Donc ça, c'est une conséquence directe des coupures de 1994 dans les paiements de transfert, quand le gouvernement libéral fédéral a fait sa lutte au déficit sur le dos des provinces. Donc on parle d'un manque à gagner de 3,5 milliards à la grandeur du Québec et de 820 millions au Québec. À la FERC, par contre, on met un petit bémol là-dessus, sur l'argumentaire des recteurs à ce sujet, parce que pour eux autres, il serait préférable d'établir des objectifs nationaux, d'estimer leurs coûts et d'apporter un financement adéquat plutôt que de simplement se comparer à des niveaux de financement historiques et au financement des autres provinces. C'est parce que c'est pas tout là, de dire on veut cet argent-là. On veut cet argent-là pour faire quoi? On va le dépenser comment?
On veut payer plus cher nos administrations.
Mais c'est ça, tu sais. Parce qu'on peut se poser la question, parce que l'argent, il y en a dans le système d'éducation. Là. Il y a du monde qui font même de l'argent avec ça, hein? Donc, on peut se poser cette question-là. Évidemment, la solution des... oui, excuse-moi.
Ben juste, quand on parle du monde qui a de l'argent, juste à faire au salaire des recteurs.
Ben oui, c'est ça. C'est 300 000 $ par année, le recteur de l'Université Laval. Tu sais, c'est quand même...
C'est beau.
C'est quand même hot. Il est payé plus que le premier ministre du Québec. C'est-tu? En tout cas...
Ouais, mais... Dans le temps, Pigeon, il connaissait ça, le béton.
Évidemment, la solution des directeurs, des politiciens, des fabricants d'opinion publique, c'est de hausser les frais de scolarité pour rejoindre la soi-disant moyenne canadienne. Bon, d'ailleurs, moi, je me suis toujours demandé, si on hausse les frais de scolarité au Québec, la moyenne canadienne, elle va pas augmenter.
On va courir après.
On est les plus bas au Canada. Si on les hausse, qu'est-ce qui va arriver, tu penses, en tout cas? Mais ça, c'est un autre point de détail. Là. Il faut faire attention avec ça. D'un, ça sert à rien si, en parallèle, il y a un désengagement de l'État. Et des engagements de l'État, il y a. Le gouvernement libéral, il dit, on en met de l'argent, on en a mis plus. C'est vrai. Sauf que, entre 88 puis 2002, la part du financement gouvernemental dans les universités est quand même passée de 87% à 71%. C'est bien cool d'augmenter les frais de scolarité, mais si, en parallèle... le gouvernement sortir, ça change rien, là. C'est changer 4,38 pour une place... puis endetter plus les jeunes, puis se retrouver avec des universités qui sont tout aussi sous-financées. Et c'est ce qui est arrivé en Grande-Bretagne, c'est ce qui est arrivé en Ontario, c'est ce qui est arrivé partout.
C'est ce qui arrive tout le temps aussi. Donc, tu appliques des mesures néolibérales, ça chie.
Oui. Puis l'autre affaire aussi, c'est que les gouvernements, c'est sûr, c'est les principaux coupables, mais c'est pas les seuls responsables du déséquilibre entre le financement des universités québécoises puis leurs homologues canadiennes. Il y a les frais de scolarité qui sont plus élevés ailleurs, mais il y a pas juste ça. Il y a l'entreprise privée aussi qui contribue différemment d'une province à l'autre. Si on prend les universités ontariennes, en 2004-2005, elles ont reçu 746 millions en aide privée. OK, ça, c'est des dons, c'est de la philanthropie, c'est des chaires de recherche, c'est... Les universités québécoises n'ont eu que 171 millions.
Bah,
c'est quand même une différence de 545 millions.
Quand même.
Je peux bien croire qu'il y a plus d'universités ontariennes, qu'il y a peut-être plus d'étudiants ontariens. Il y a quand même bien des maudites limites à prendre le monde des dindes. Et c'est pas en arrivant, comme le gouvernement du Québec vient de le faire, avec des incitatifs à l'aide du privé qu'on va arriver à quelque chose.
Ah oui, parce qu'on s'entend.
Parce que le privé québécois, il faut qu'il se fasse tordre le bras.
Les incitatifs, là, en général, ça veut dire, donnez à eux, puis vous allez avoir des déductions d'impôts.
Ben oui, c'est ça. Ça finit par te coûter de quoi, de toute façon?
C'est ça. Ils n'ont rien donné au final.
Donc, pour terminer, j'aurai jamais le temps. Le sous-financement de l'éducation, c'est un vrai problème. Les frais de scolarité, par contre, les hausser, c'est une fausse solution qui va créer d'autres problèmes. Les risques. donc, a calculé que la gratuité scolaire, c'était pas si cher que ça. Il y a 120 millions qui est... ça coûterait 620 millions régler le problème du sous-financement. Puis si on enlève la contribution étudiante est de 551 millions. Si on ajoute les frais afférents et tout, ça fait un montant global pour financer la gratuité scolaire et régler le sous-financement des universités. On parle de 1,2 milliard de dollars. Donc, ça, c'est le coût total de la gratuité scolaire et du règlement du sous-financement.
C'est moins que la baisse d'impôts des riches depuis le PLQ.
Ben oui, c'est ça. Ça revient à une augmentation de 9,5% du budget du ministère de l'Éducation. Ou, si on veut mettre les choses en perspective, l'équivalent de 2% du budget du Québec ou 0,5% de son PIB. Donc, pour l'ensemble des contribuables, mettons qu'on mettrait ça en flat tax à tout le monde, ce serait 211 piastres ou 4 piastres par semaine.
Papi.
C'est quand même pas si mal. Et donc, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas la fin du monde. Là. Je veux dire, à titre d'exemple, en 2003 et 2007, le gouvernement libéral a augmenté le budget du ministère de l'Éducation de 16,4%. Si on y va avec une... Advenant le cas où est-ce qu'on disait que ce serait l'impôt des particuliers qui devrait payer, ce serait une hausse d'à peu près 1,5% pour les plus riches, puis de 1% pour les contribuables moyens. Mais l'IRIS propose d'aller chercher cet argent-là dans les poches des compagnies, notamment en imposant à 100% la taxe sur le capital et en augmentant légèrement la taxe sur le capital pour les institutions bancaires. Donc, bref, les riches, là, les entreprises qui ne contribuent pas au Québec puis qui contribuent en Ontario, ben, s'ils sont pas capables de contribuer volontairement, ben, qu'on les fasse contribuer de force. Et c'est sur ça que va se terminer cette édition de Voix de Fait, parce qu'on est en train de dépasser notre temps. C'était Nicolas.
Janie.
Et Farouk.
Vous écoutez Voix de Fait sur les ondes du 88.3 à Québec. Passez une bonne semaine.
Traverse le feu sans se brûler. Elle connaît les champs de guerre pour cultiver la paix. Reine d'ébène immaculée, tu partageais ta haine figée quand ton mari s'est fait tirer. Aujourd'hui c'est toi qui pars, briller au loin comme les lumières d'un phare. Briller plus haut, plus fort qu'une star. C'est toi qui pars, les Black Américains orphelins de l'histoire. On t'a jamais perdu une perle rare. Passe le bonjour à Malcolm.
Bonjour. Je suis Adrien Chavanne, président de l'Association haïtienne de Québec. Je soutiens ce CKIA depuis 1986 parce que je crois à une radio solidaire qui, de plus, s'intéresse à la situation d'Haïti depuis plus de 25 ans. Ce CKIA a besoin de nous plus que jamais. Devenez membre, faites un don par Internet à ckiafm.org ou par téléphone à 529-9026. Merci.